En hommage à Anne Sylvestre récemment disparue, voici l'émission Remède à la mélancolie enregistrée avec elle le 22 avril 2018.
Sur ce sentiment inconnu dont l'ennui, la douceur m'obsède, j'hésite à imposer le nom,
désespoir.
Le beau nom grave de tristesse.
Vous vous rendez compte de votre état ?
La mélancolie.
Vous avez envie de guérir ou vous n'avez pas envie ?
Remède.
Ce que je veux avant tout, c'est que les gens se soignent.
À la mélancolie. Eva Bester.
Appelez-moi docteur.
Bonjour à tous et bienvenue dans cette émission préparée par Laure Grand-Besançon et Eva Ferenczi, réalisée par Eliane Girard et mise en musique par Muriel Pérez. Aujourd'hui à la technique, Anne-Laure Cochet. La gourmandise ce matin, c'est le dessin d'un chien en forme d'arceau de l'artiste Guillaume Pinard. Sur un cahier d'écolier surgit une gigantesque masse de poils d'encre figurant un irrésistible frère canin. On ne voit pas ses yeux, mais on ressent qu'il s'érige vers l'absolu ou le caniveau, on ne sait pas, alors penchons pour l'absolu. La créature est une antithèse de la mélancolie, tout comme son éloquent et sobre nom, chien poilu. En plus de distraire agréablement le regard, il est un territoire imperméable à toute malveillance, une robe frisée à mie, un pelage invitant à s'enfouir en son sein à l'abri du réel. Nous mettrons le dessin ou un lien pour le voir sur le site. Tout ce que l'homme a pu ressentir, notre apothicaire de l'âme l'a chanté. Dans son colossal répertoire des textes délicats, facétieux, poétiques, engagés. Celle qui envisageait une carrière de professeur de lettres a toujours aussi bien jonglé avec la drôlerie qu'avec la gravité. Elle débute au cabaret de la Colombe, puis remplit l'atmosphère des Trois Baudets, de Bobino ou de l'Olympia. En 1962, pour sa première fille, elle imagine des chansons pour enfants, les Fabulettes. Elle en fera 18 albums, une minorité dans son œuvre. Lorsqu'elle a commencé à écrire ses chansons vers 20 ans, à l'exception de Nicole Louvier, les femmes étaient seulement des interprètes. Notre apothicaire ne pensait pas qu'on adhérerait à ce qu'elle faisait. Elle mit des années à admettre que les gens qui venaient à ses concerts et ses spectacles l'aimaient. Preuve supplémentaire s'il en faut, elle célèbre ses noces de diamant avec la chanson. 60 ans de carrière à savourer dans un spectacle et dans un coffret et elle prépare un nouvel album. Celle qui se définit comme toujours en mouvement et elle ne s'arrête jamais en effet, est une incarnation de l'élan vital. Elle se refuse d'ailleurs à imaginer un jour faire ses adieux. Je cite l'émouvante. Peut-être qu'un jour, on ne me verra plus et on dira « Tiens, elle n'est plus là ». Bonjour Anne Sylvestre.
Bonjour.
Vous l'avez beaucoup chanté, la mélancolie. Je pense à « Bail mélanco », je pense à « Je cherche un mur pour pleurer ». Quel est votre rapport à la mélancolie, Anne Sylvestre ?
Eh bien déjà, je me suis demandé tout de suite pourquoi on aurait besoin d'un remède, parce que on n'a pas besoin de guérir de la mélancolie. Je pense que j'ai toujours fait très bon ménage avec. C'est un petit peu quelque chose de nécessaire, il me semble, pour sans doute équilibrer le reste. J'avais dans ma famille, il y a toujours des histoires comme ça qui se passent de l'une à l'autre ou de l'un à l'autre dans les familles. J'avais une cousine qui s'appelait Annie et on racontait que petite fille, elle se mettait souvent, on la retrouvait sur un escalier en train de pleurer et puis un jour on lui a dit mais enfin. Mais arrête de pleurer, quoi. Et c'est pas si grave que ça. Elle a dit, mais laisse-moi, j'aime pleurer. Et je crois que c'est ça.
Mais d'ailleurs, dans Je cherche un mur pour pleurer, vous faites l'éloge du temps à prendre pour pleurer. Vous dites, on ne pleure plus, paraît-il, on avale tout, c'est
oui,
facile.
Oui, c'est vrai. Moi, quand j'étais petite, et presque je continuerai à le faire, je pleurais contre un mur, avec un bras, et puis on pleure sur son bras posé sur le mur.
Dans la posture mélancolique classique.
Exactement, et j'attendais qu'on vienne me chercher.
Est-ce qu'on venait vous chercher ?
Pas toujours.
Pas toujours. Et aujourd'hui, on vient vous chercher ? Zut.
Oui, mais enfin, quelquefois, je reste contre mon mur.
Hein. Ah ouais. Peut-être ouais. Qu'il faut pleurer ailleurs, il faut trouver d'autres endroits.
Mais je me suis aperçue aussi, avec le temps, que pleurer, ça vous enlève des forces aussi. Alors, je pleure en dedans.
En dedans. Et le fait d'avoir mis cette mélancolie dans vos chansons, est-ce que vous pensez que ça vous aide justement à vivre en bon compagnonnage avec elle ?
Oui, je trouve ça plus beau. C'est pas la tristesse. c'est pas le malheur, c'est pas, c'est une sorte de brume dorée, quoi, qui flotte autour.
Très joli. J'annonce le sommaire des réjouissances aux auditeurs. Anne Sylvestre, dans quelques instants, vous allez convoquer des cow-boys en jupon. Le respect du verbe, la procrastination, Notre-Dame, une fabulette, la chanteuse Rina Ketty, quelqu'un de très cher, la mère et deux adages, juste après un titre de la playlist France Inter, Jean-Louis Murat, l'arc-en-ciel.
Je suis parti comme tu le sais à l'improviste. Pas eu le temps non de faire mes adieux. L'instant fut bref, puis vint encore plus vite la flèche de lumière qui te perça le cœur. Si l'arc-en-ciel est messager d'amore, pourra-t-il un jour te retrouver? Avec les couleurs peut-on effacer la plus avilissante des misères? Je suis devenu un coucher de soleil. Je parle comme les feuilles d'avril. Je vis enfin dans chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le più danzo, ne s'exprime que dans le silence, mis à sanction. Tellement de choses que je n'ai pas comprises, qui passent comme étoiles filant dans mon cœur. Ai-je jamais eu du plaisir à porter cette valise infinie? Tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera? Et cherches-tu toujours à comprendre? Chaque voix sincère. Avec les oiseaux, je vis le chant subtil. Ici, mon chant le plus beau, le plus dense, ne s'exprime que dans le silence, mis à sanction. Mi manchi tanto, amico caro davvero. E tante cose sono rimaste da dire. Écoutes-tu toujours la musica vera? Et cherches-tu toujours à comprendre? Écoutes-tu toujours la musique à vera? Et cherches-tu ces poils décapillés? Écoutes-tu toujours la musique à vera? Et cherches-tu ces poils décapillés?
Remède à la mélancolie sur France Inter en compagnie d'Anne Sylvestre.
Ramène-moi une rouquine, Roy!
Une jolie blonde pour moi!
Moi, je me fous de cette robine, pourvu que ce soit une femme!
Je ne suis pas sûr que vous sauriez quoi faire en présence d'une femme.
Ah, laisse-nous essayer.
Ce machin-là, ça ne s'oublie jamais, tu sais.
T'as qu'à les amener.
La mienne, c'est même pas la peine qu'elle sache faire la cuisine, Roy.
Voyons, je ne peux garantir qu'elles sont jolies. Les uns peuvent trouver belle une femme que d'autres trouveront très laide. Vous me connaissez. Je suis sérieux quand je donne ma parole. Il n'y a qu'une chose que je puisse promettre. Je ramènerai d'honnêtes femmes. Tâchez de savoir si vous serez tous dignes d'elles. Tâchez de savoir si vous saurez faire preuve de patience, de compréhension et d'honnêteté.
1951, le western Convoi de femmes de William A. Wellman, dont l'histoire est signée Frank Capra. C'est une découverte grâce à vous, Anne Sylvestre. Un bonbon, c'est merveilleux ce film.
C'est magnifique.
Magnifique. Oui. Est-ce que vous pouvez rappeler l'intrigue pour les auditeurs?
Un western, c'est un convoi composé de femmes qui viennent pour être les épouses de d'hommes qui sont des travailleurs, je ne sais plus
dans un ranch en Californie où il y a que des hommes.
Et elles sont, elles font tout un trajet. D'ailleurs, c'est assez dramatique. Il y a quelquefois il y en a qui disparaissent, il y en a qui sont, il y en a une qui est noyée, je crois. Enfin, je sais plus. Mais bon, elles sont là et il y a un homme qui les conduit et qui fera lui aussi son parcours personnel pendant tout ce voyage. Il arrivera à vraiment les respecter. Et moi, la scène que je retiens, qui me reste en tête, c'est toujours, c'est quand on leur dit qu'elles vont arriver bientôt et que ces hommes-là vont les attendre, bien sûr. Elles avaient reçu des portraits aussi. Elles avaient choisi la photo de celui qu'elles espéraient. Et elles demandent un arrêt pour se faire belle. Et il y a toute une scène où elles utilisent les torchons, des ficelles, pour se faire belle, pour se faire des costumes, elles se font des coiffures et elles arrivent triomphantes sur le chariot devant tous ces hommes qui ont les yeux qui sortent de la tête.
Le coup.
C'est un merveilleux film.
Ah non, c'est un charme fou, c'est vraiment, on passe un moment merveilleux. Et ce qui est assez frappant, c'est que c'est aussi drôle que tragique.
Bien sûr.
Tous les gens, toutes les femmes attachées à un être dans ce film perdent cet être à un moment ou à un autre. Il y a des accidents, il y a le choléra, il y a les Indiens, il y a des choses tragiques.
Oui, et puis il y a les raisons pour lesquelles elles sont là, c'est pas non plus très joyeux quand même, on les a exilées quoi finalement.
Elles veulent recommencer une nouvelle vie, et elles sont filmées comme des hommes dans les westerns.
Oui,
c'est ça le tour de force.
Oui, oui.
Parce que le convoyeur, qui est Robert Taylor, irrésistible, qui est assez misogyne au début du film.
Oui, après.
Après, il les respecte.
Il tourne, oui.
En effet, mais après leur avoir quand même donné des coups de poing dans la tête et des coups de fouet.
Oui, mais il y en a qui sont.
Qui répondent.
Bien sûr, qui se sont défendus, bien sûr.
Donc la jubilation en regardant ce film, c'est de voir que ces femmes vont devenir de véritables cow-boys et se débrouillent toutes seules très très bien, voire même mieux que les hommes.
Oui, quelquefois, oui.
Vous aviez aussi fait allusion à L'île nue de Kaneto Shindo, un film de 1960.
C'était un film extraordinaire que j'ai vu quand j'étais étudiante. J'allais quelquefois à la place des cours dans un petit cinéma qui s'appelait ce film était sans paroles. Il y avait juste une musique magnifique, obsédante, que j'ai encore gardée au fond de la tête. Et c'était une histoire qui se passait en Asie, quelque part, je ne me rappelle plus. Mais d'un couple qui était sur une île, qui vivait seul. Et de temps en temps, il prenait le bateau pour aller à terre chercher de l'eau. Et puis dans cette histoire, je pense qu'ils ont... ils vont enterrer leur fils, enfin un enfant qui a... Mais c'est cette musique qui m'est restée, qui est magnifique, vraiment. Ça, alors, c'est pas un remède. Hein.
Non.
C'est un renforcement, voilà, un vaccin peut-être.
Un vaccin, oui, ça arrive souvent qu'on choisisse des vaccins dans l'émission. Vous avez, Anne Sylvestre, joué Calamity Jane dans la balade de Calamity Jane. Je ne peux pas m'empêcher de me dire que vous avez un goût pour le western. Est-ce que ça a un rapport avec votre choix ?
Ah oui, j'adore ça, oui. Oui. Maintenant, je n'en vois plus beaucoup, mais je me suis beaucoup nourrie de western, oui.
Alors ça pourrait être le mot d'ordre du convoi de femmes qu'on vient d'évoquer, mais c'est votre devise, Anne Sylvestre, avance. Vous n'avez pas un tempérament nostalgique ?
Non, parce que avance. J'ai aussi une sorte de comment dire, pas une devise, mais une phrase qu'on m'a dite un jour et que je retiens, c'est « on cherchera le pont quand on sera à la rivière ». C'est-à-dire que c'est pas la peine de, il faut y aller quoi, et faire les choses à mesure qu'elles se présentent.
Ne pas trop anticiper.
Non, parce que ça fait du mal, ça tracasse, puis ça freine surtout.
Donc
ça freine.
Vous arrivez à diviser une montagne en petits pas.
Oui, c'est dans l'idéal. Quoi. Je raconte, je dis, je fais ça. Je le fais pas forcément parce que, mon Dieu, oui, quelquefois ça reste dans le désir.
C'est un but.
Ouais.
Mais c'est presque une devise de sportive, de navigatrice en solitaire. Avance, c'est-à-dire que, enfin, je sais pas, j'imagine Orphée qui ne se retournerait pas. Faut aller de l'avant parce qu'on sait, quand on veut autant aller de l'avant, c'est qu'on sait les abîmes qui guettent si on
Bien
se retourne.
Mais quand j'ai commencé à chanter devant des gens, j'avais une peur terrible, j'avais un désespoir parce que je n'y arrivais pas, j'y arriverais pas. Et puis c'était, ben j'y allais quand même. Tous les matins, je me réveillais, alors que le soir, j'avais dit, j'irai plus. Et puis après, et ça a toujours été un petit peu ça. C'est, qu'est-ce qui va se passer si tu n'y vas pas? Ben, là, j'y vais.
Et ce serait toujours pire, finalement, de
oui,
ne pas y
peut-être.
Aller.
Peut-être. Ben, parce que les regrets.
Oui. Votre autre credo, c'est je l'ai dit, je le fais.
Ah ça oui, mais alors c'est un malheur, ça, c'est terrible.
Ça, vous l'avez hérité, c'est une tradition familiale ou...
Non, c'est peut-être. Oui, je pense qu'on est un petit peu comme ça autour de moi. C'est ouais, je l'ai dit, je le fais. Donc voilà, même si au moment où j'accepte quelque chose, je me dis ah oui, bon, allez, le faire. Et ensuite, je me dis oh là là, mais pourquoi j'ai dit que je ferais ça? Mais il faut y aller, on y va, quoi.
Et quel regard avez-vous justement sur ceux qui ne respectent pas leur verbe? Est-ce que vous êtes plutôt indulgente ou est-ce que ça vous déçoit?
Bon, je sais pas. Non, je pense que je suis un peu indulgente. Je les comprends pas complètement, mais je suis indulgente. C'est pas la peine de se fâcher avec tout le monde.
Oui, c'est vrai. Puis c'est assez fréquent.
Mais quelquefois, on s'aperçoit que on s'est fait beaucoup de soucis, puis finalement, l'autre s'en fiche, quoi.
Ouais, c'est quelque chose dont je me rends compte chaque jour de la vie.
C'est vrai?
Oui.
Ben voilà. Eh ben, c'est pas fini, ma fille.
Zut.
Il est inconcevable à quel point l'homme est naturellement paresseux. On dirait qu'il ne vit que pour dormir, végéter et rester immobile. À peine peut-il se résoudre à se donner les mouvements nécessaires pour s'empêcher de mourir de faim. Ne rien faire est la première et la plus forte passion de l'homme après celle de se conserver. Si l'on y regardait bien, l'on verrait que, même parmi nous, c'est pour parvenir au repos que chacun travaille. C'est encore la paresse qui nous rend laborieux.
Extrait de l'essai sur l'origine des langues de Rousseau, lu par Laure Grandbesançon sur la sonate en mi bémol majeur de Handel, pour illustrer l'activité qui vous met en joie, Anne-Sylvestre, la procrastination. Alors l'étymologie, c'est ajournement, délai, c'est la remise à plus tard d'une action. Et je vous voyais opiner du chef pendant l'écoute de cette archive.
Mais oui, parce que... C'est ça. Mais c'est pas quelque chose qu'on aime, ne pas faire les choses ou se dire. Mais j'ai toujours été un peu comme ça, celle qui faisait son devoir de français juste au dernier moment où il me reste encore. Bah, j'ai encore un jour, j'ai encore une heure, j'ai encore. Mais c'est là, j'en ressens un petit peu le contre-coup. Parce que c'est aussi se laisser envahir. Envahir de bouquins, envahir de disques, envahir de pensées, envahir de rien, envahir de demandes aussi, quoi. Parce que quand on ne refuse pas, évidemment, les gens demandent toujours. Mais... En fait, je suis tiraillée entre ce... je le dis, je le fais, puis ce... J'aurais pas dû, quoi.
Oui, on le sent là dans votre discours.
Oui. Ça,
vous l'avez malgré tout choisi dans les remèdes, ça ne provoque jamais de spleen chez vous justement de procrastiner? Parce que ça peut, le fait de ne pas faire justement ça, ce oui. désengagement du monde...
C'est pas un... Enfin, oui, quelquefois, mais les choses vont vite. La vie va vite, mon Dieu, qu'est-ce que... Donc il y a toujours des... Il y a des... Comment on appelle ça? Je perds les mots là, c'est drôle.
Aucun problème.
Ça fait rien. Des priorités.
Oui.
C'est pas un joli mot. Donc,
non, c'est vrai.
Il y a des priorités, il y a des choses qu'il faut vraiment faire parce que sinon on va vous harceler, quoi. Donc, alors je le fais un peu au dernier moment, mais je sais pas, il y a des. On peut aussi rêver les choses et savoir qu'on les a presque faites.
Ça vous convient? Sur le papier? rêver les choses. Et
sur le papier, oui, ça, de toute façon, on peut faire tout ce qu'on veut là sur le papier. Mais aussi, par exemple, j'ai voulu, ou je voudrais, une maison ou un appartement, ou un machin comme ça. Voilà comment je le rêve, voilà comment je voudrais qu'il soit. Et puis on s'aperçoit, quelques années après, que non, parce qu'on n'a pas eu le temps. Alors bon.
Mais quand vous parlez de procrastination comme remède, c'est plutôt des moments d'oisiveté agréables?
Oui, bien sûr. Oui, oui. Ah, c'est un remède. Oui, c'est ça. C'est en même temps, quoi. Oui, oui.
Oui, c'est très mitigé. J'ai l'impression que c'est toujours complexe, comme dans vos chansons, Anne Sylvestre. C'est toujours composé de plusieurs demi-teintes.
Il y a plusieurs couches, hein, oui. C'est-à-dire qu'il y a, c'est un remède et en même temps, c'est un.
Un mal.
Voilà. Une maladie. Mais si on a les deux dans le même paquet, ça doit pouvoir se vivre.
Alors pour avoir un tel répertoire, je ne peux pas croire de toute façon que vous ayez tant procrastiné que ça. On va écouter l'une de vos chansons. Je me suis retenue de mettre Les gens qui doutent parce que je sais que tout le monde vous parle tout le temps de cette chanson. Voilà.
Merci.
Vous confirmez.
Je l'aime, hein, mais quand
oui.
même.
J'encourage tous les auditeurs à écouter Juste une femme que je trouve absolument bouleversante, mais je ne l'ai pas mise parce que ça allait à l'encontre du but de l'émission.
Oui.
Donc, on va écouter une chanson de 1981 qu'on trouve sur l'album Dans la vie en vrai, c'est Lâchez-moi.
Quand on a des emmerdements, quand on se cherche une maman, quand on a trop de sentiments, c'est pour moi. Quand les enfants sont pas gentils, quand on aime trop son mari ou qu'on voudrait qu'il soit parti, c'est pour moi. Quand on cherche en vain l'amitié, quand on ne peut pas s'exprimer, c'est pas pour la porte à côté, c'est pour moi. L'araignée qui cherche un régime, l'auteur qui court après sa rime, la bavarde qui fait du mime, cherchez pas, c'est pour moi. Lâchez-moi, j'ai déjà donné. J'en ai assez de vous bercer, il faudrait toute la journée que je materne. Lâchez-moi, ça finira mal. Je ne suis pas un confessionnal, c'est de l'invasion cérébrale, ça me consterne, j'ai mal. Mais ce qu'on voudrait voir fleurir, ce qu'on rêve avant de dormir, ce dont on aime le sourire, où sont-ils? On ne les voit jamais pleurer, c'est à la pince à épiler qu'il faut leur tirer leurs secrets, c'est facile. Ils n'arrosent pas mon paillasson, apprennent tout seuls leurs leçons, ignorent vraiment sans façon leur nombril. Les qui n'ont pas le temps d'être tristes, les qui avouent quand on insiste que le bonheur parfois résiste. Je les cherche, où sont-ils? Lâchez-moi, vous me piratez. En moi vous prenez vos quartiers, en plus vous me barricadez contre les autres. Lâchez-moi, car vous me ruinez. Moi en matière d'amitié, je ne suis pas un gros banquier, mais j'ai mes pauvres cachés. À force de le répéter, je finirai par m'inventer un égoïsme forcené, vous verrez. Je boufferai le récepteur du téléphone et quel bonheur, j'assassinerai le facteur, vous verrez. Je ne vous écouterai plus, je vous laisserai vous pleurer dessus, là vous ne serez pas déçus, vous verrez. La grande sourde qui ricane, l'indifférence à l'œil qui plane, l'écluse qui a fermé ses vannes, ce sera moi, vous verrez. Lâchez-moi, laissez-moi souffler. Je ne suis pas votre bouée, apprenez plutôt à nager, c'est plus utile. Lâchez-moi, et peut-être un soir, j'aurai envie de vous revoir. Je dirai, ils sont en retard, c'est difficile, mais j'en garde l'espoir.
Remède à la mélancolie sur France Inter, toujours en compagnie d'Anne Sylvestre, dont on vient d'entendre le titre Lâchez-moi. J'ai eu beaucoup de chance parce que vous avez mimé presque toute la chanson en studio.
Mais je me rendais compte que je la chantais, c'est une un enregistrement studio, sans doute au début de la vie de cette chanson, et que je la chante très très gentiment, alors que parfois sur scène j'ai...
Plus de colère.
Non, pas de la colère.
Ouais, lâchez-moi.
Bon, lâchez-moi.
Voici la première chanson qui vous empêche d'être triste.
Que va-t-on manger ?
Des nouilles.
Mais hier déjà.
Hein ? Des nouilles.
Ce matin encore.
Des nouilles.
À midi enfin.
Des nouilles. Avec les nouilles, on se débrouille, on veut des nouilles, rien de plus.
On ne peut pas manger que des nouilles, il faut varier les menus. Il y a donc les vermicelles. Les spaghettis, les papillons, cheveux d'ange ou de demoiselle, ruban, coussin et tortillon, macaroni et coquillettes, petits plombs ou langues d'oiseau, alphabet au bord de l'assiette, panier, roulettes et fuseaux. Des nouilles, des nouilles, des nouilles, j'en veux pas si c'est pas des nouilles, si c'est pas des nouilles, j'en veux pas. Mais avant les nouilles.
Des nouilles.
Une ambiance révolutionnaire règne dans le studio. C'est l'une de vos fabulettes, Anne Sylvestre, des nouilles. Oui. Les fabulettes, vous ne les avez jamais chantées sur scène puisque vous aviez peur d'être cataloguée de cette partie de votre répertoire qui était pour les enfants.
Oui, sans doute, oui, je l'ai senti dès le début, donc. Bon, et j'avais raison, hein, parce que maintenant encore, il y a des gens qui ne connaissent le nom d'Anne Sylvestre que par les fabulettes.
Et pourtant, les fabulettes ont acquis une renommée grâce aux enseignants uniquement.
Oui, c'est ça.
Pas par les médias.
Jamais.
Et bien voilà, qui est réparé.
Oui, mais bien sûr, par la presse écrite, on a parlé assez souvent. Ils m'ont jamais laissé tomber. Mais bon, oui, les enseignants, je leur dois beaucoup. C'est eux qui ont fait le succès de ces 18 séries de chansons.
Alors, des nouilles, quelle est la genèse de cette chanson?
Je ne sais pas, ça doit être une de mes filles ou quelqu'un qui a dit « j'en veux pas si c'est pas des nouilles ». Si c'est pas des nouilles, j'en veux pas. Et j'ai vu, quand ces chansons ont été chantées sur scène par d'autres interprètes, et j'ai vu des manifs sortir « des nouilles, des nouilles, des nouilles ». C'est pas très...
Beaucoup de vos chansons ont résonné dans des manifestations sur des sujets plus graves, d'ailleurs.
Ah oui, si, oui, bon, d'accord.
Non, mais vous dire, vous faites partie de la vie politique de ce pays.
C'est très bien.
À une audition chez Barclay, on voulait vous cantonner aux chansons drôles. Et au début, vous n'aimiez pas ça, vraiment. Vous alliez jusqu'à penser bande d'imbéciles quand les gens applaudissaient comme des fous.
Mais pendant... oui, j'ai méprisé ces chansons-là, j'avais envie de dire. Et alors, les autres, vous les aimez pas?
Ah oui.
Bon... Jusqu'au jour où je me suis aperçu que c'était d'une part très utile, parce que ça détendait l'atmosphère, puis entre certaines chansons, et puis aussi qu'on pouvait dire des choses très intéressantes, par l'humour, bien sûr.
C'est ce que vous faites dans beaucoup de vos chansons, d'ailleurs, oui. Lâchez-moi qu'on vient de passer.
Ah bah oui, ça, bien sûr.
Chante les señoritas si brunes, quand lui sur la plaza la lune. Je revois dans un boléro sous la charmille des Carmen et des Figaro dont les yeux brillent. Je sens revivre dans mon cœur en dépit des montagnes un souvenir charme ardent comme une fleur.
Passo doblé de 1938, Sombrero s'est menti par Rina Ketty, oui. Des paroles de Chantilly, une musique de Jean Vessade. Vous adorez Rina Ketty?
Ben oui, c'est vrai. C'est une chanson que j'ai entendue, c'est ma grand-mère écoutait ça, Rina Ketty, et puis son répertoire et d'autres personnes de cet acabit. Mais c'est une très belle chanson d'ailleurs, elle est très bien écrite, et Rina Ketty chantait bien. Enfin voilà, ça fait partie de mon tissu musical très tôt, quoi.
Il y a une joie pure d'ailleurs dans cette chanson.
Ah oui, 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 mais je rêve, je vais la travailler, je vais peut-être la chanter un jour, je sais pas, je vais me faire ce plaisir.
Oui.
Non, puis il y avait aussi Jean Lumière, etc. Enfin, bon, j'ai été quand même baigné dans de la musique, dans des chansons. Il y avait aussi d'autres, il y avait des opérettes, il y avait des choses intéressantes. Plus tard, évidemment, j'ai été initié à Trenet. J'ai écouté Trenet beaucoup. Mes parents l'aimaient beaucoup.
D'ailleurs, votre panacée dans vos remèdes, Anne-Sylvestre, on s'en doute, c'est de chanter. Et votre rapport à la voix fut un parcours initiatique, puisque tous les soirs, après avoir chanté, au début, vous vous enfermiez dans les toilettes, vous pleuriez de désespoir parce que vous ne vous trouviez pas bonne.
Ben c'est ça. Je me disais, je ne serais jamais, je ne sais pas, Hélène Martin, je ne serais jamais Guy Béard, je ne serais jamais les gens qui passaient dans cet endroit, la Colombe, où j'ai fait mes premières notes. J'étais désespérée, mais ça ne m'a pas empêchée de continuer. Parce que je pense que c'est à ça qu'on peut mesurer le degré de désir. Il y a des gens qui veulent faire chanteur puis qui n'y arrivent pas parce qu'ils sont trop malheureux. Le trac rend malheureux. Et donc, moi, voilà, il n'y a que ça que j'avais envie de faire.
Il n'y a aucune de vos chansons qui ne vous lasse ?
Oh, il y en a, si, sans doute, quelques. Pas beaucoup, mais celles. Et non, je peux même pas dire les anciennes, puisqu'il y a certaines anciennes, toutes nouvelles, toutes premières que je chante encore de temps en temps. Mais il y en a, par exemple, tout d'un coup, je m'aperçois, oh là là, cette rime, elle est mauvaise, j'aurais dû en trouver une autre. Et je la trouve, donc je la chante. Puis il y en a quelques-unes, parfois, qui ont été pas bien comprise, donc c'est ennuyeux, on n'est pas là pour expliquer ce qu'on a. De toute manière, moi j'ai fait des chansons pour ne pas avoir à expliquer. Alors quand on vient me dire, mais alors c'était quoi ça, ça veut dire, mais je dis, enfin, écoutez la chanson, les chansons vous parlent, ce qu'elles disent, c'est ça la vérité.
Ce qu'elles disent à chacun.
Mais oui, mais et puis si on ne comprend pas, tant pis, on ne comprend pas.
Ô bâtisseur de cathédrale, il y a tellement d'années, tu créais avec des étoiles, des vitraux hallucinés, flammes vives, tes ogives s'envolaient au ciel léger, et j'écoute sous tes voûtes l'écho de pas inchangé, mais toujours à tes côtés. Un gars à la tête un peu folle n'arrêtait pas de chanter en jouant sur sa mandole.
Alors, je dois dire pour les auditeurs que je découvre une Anne-Sylvestre extrêmement drôle en studio qui se moque d'elle-même à chaque seconde et qui là vient de mimer la barbe pour écouter sa propre chanson, mais Les oui. Cathédrales. Mais j'étais obligée de la passer parce que je vous ai raconté hors antenne une anecdote que je me permets de résumer brièvement. Quand j'étais petite à l'école, en cours de musique, on avait appris cette chanson. Et pendant très longtemps, comme c'était la seule chanson que je connaissais, je la chantais à mes grands-parents qui étaient morts en regardant mon plafond en pensant qu'ils entendaient.
Voilà. Mais oui, mais c'est votre mélancolie, ma chère.
Oui, c'est la mienne, mais c'est votre chanson. Moi, elle m'a fait du bien. C'était une chanson que vous avez écrite pour vous débarrasser d'un thème qui vous fascinait depuis vos études, quand oui. vous révisiez vos cours en haut des tours de Notre-Dame, le oui. Moyen-Âge.
Oui, assise sur une corniche, là. Mais oui, parce que je voulais me débarrasser. J'aurais mis du Moyen-Âge partout. Donc, non. Mais je ne renie pas cette chanson, vraiment.
Comme œuvre d'art, vous avez choisi pour l'émission les vitraux de Notre-Dame. Oui, voilà. Regardez leur couleur, donc j'étais obligée de passer cette chanson.
Mais oui, bien sûr.
Je me justifie bien doublement. Sûr. Notre-Dame de Paris apparaît oui. même en couverture de l'un de vos albums.
Oh mon Dieu, mais oui, mais alors, on m'a photographié au musée, musée des monuments historiques, et c'était, quand j'ai voulu m'appuyer contre une colonne, on m'a dit, ah, c'est du carton-pâte.
Donc c'est du carton-pâte.
Oui.
Et les vitraux alors?
Parce que ça m'a toujours fasciné, les vitraux, c'est tellement beau.
Il y a trois grandes rosaces qui représentent les fleurs du paradis, on l'a ouais. appris en préparant l'émission. Les vitraux du cloître, qui sont la légende de Sainte-Geneviève. Et puis des vitraux beaucoup plus modernes de Jacques le Chevalier, oui. qui datent du XXe siècle.
Mm-hmm. Oui, qui sont beaux aussi, derrière. Là. Oui, oui, mais j'aime beaucoup. J'allais me promener, j'allais beaucoup à Notre-Dame pour réviser un peu mes cours.
Et vous y allez encore souvent ?
Non, pas assez, parce que c'est pas mon quartier, puis parce que j'ai pas l'occasion. Mais quand je vais quelque part, j'entre toujours dans les églises.
Alors, je suis obligée de penser à la scène que vous avez chantée, Anne Sylvestre, quand on pense à Notre-Dame. Dans la chanson de Toute seule, vous dites « Quand j'ai mal ou de la peine, au lieu de m'en consoler, je vais voir couler la Seine et je m'amuse à pleurer.
Ben, » c'est ça.
« Et un peu plus tard, je voudrais tant me noyer. »
Oui, mais oui, ben, c'est ça c'était un de mes remèdes, sans doute. J'étais tout le temps au bord de la Seine, bien sûr, Ouais, mais je me suis aperçu d'ailleurs qu'il y avait beaucoup de noyades dans mes premiers disques, il y en avait toujours.
Donc ça va un peu mieux.
Oui, ça va mieux. Je nage toujours bien, mais non, j'irai pas me noyer.
En revanche, la mer vous enchante, la mer vous grise, et si vous ne pouviez plus la voir, ça vous rendrait très triste.
Ben là, oui, là ça fait, je la vois plus beaucoup et ça me manque beaucoup. Voilà. Vous voulez pas m'amener la mer ?
Si, on vous l'apporte tout de suite.
Bon,
un coup de fil, elle est à vous.
Ok.
Il y a un très joli livre, Coquelicot et autres mots que j'aime, que vous avez publié dans la collection dirigée par Philippe Delerme chez Point, où vous revenez sur tous les mots que vous appréciez, que vous savourez. Vous le faites avec beaucoup de fantaisie puisque vous les personnifiez. Et puis à mer, le mot mer, M-E-R, c'est le mot coffre-trésor. Il y a des souvenirs de vacances, Perros-Guirec, Les Glénans, La Rochelle, Noirmoutier, Almeria en Espagne ou Tadoussac au Canada.
Oui.
Et aussi le fait que vous pleuriez dans l'eau. Le fait que vous pleuriez dans l'eau.
Oui. Mais je pleurais dans l'eau, puis j'ai le caillou qui tombait. Mais c'est curieux parce que quelquefois, comme j'ai fait beaucoup de chansons.
Vous entendez là, on a la mer.
Oui.
C'était assez rapide.
Oh là là, oui. Les galets qui roulent. Il y a de temps en temps une chanson qui ressort comme ça. On s'en souvient, on la ressort comme si on chercher dans un tas, puis on en sort une, on la regarde, puis ah tiens, il y avait celle-là. Bon, celle-là, elle sort. Il y a les lacs aussi, bien sûr. C'est de l'eau.
Dans un instant, on va évoquer un livre qui compte beaucoup pour vous, Anne Sylvestre, juste après un morceau choisi par les programmateurs de France Inter, Hills, We Are All Right Again.
Let's give him what we got. That's who you wanna be.
Nous avons le bonheur d'être avec Anne Sylvestre dans Remède à la mélancolie sur France Inter. Anne Sylvestre, vous avez tenu à nous parler du livre de quelqu'un de très proche de vous, Alice Yonnet-Drous. Et le livre, c'est Aux Serpentines, publié en 2011 chez l'éditeur en ligne. Il n'est plus édité, donc nous n'avons pas pu nous le procurer. Vous êtes donc la seule à pouvoir nous en parler.
Oui, mais d'ailleurs, elle écrit la suite. Bon, je vais quand même dire que c'est une de mes filles, voilà.
Donc vous la fréquentez. Ça vous arrive de la fréquenter?
Je la fréquente assez, oui, oui, oui. D'ailleurs, oui, j'ai des poils de chat sur mon vêtement et comme je vais la voir et qu'elle a des chats.
Ah ben, je pensais qu'elle-même était un chat et je me disais
aussi,
là,
elle est
vraiment,
chat. Elle
c'est
est
vraiment un scoop chat, oui. Dans l'émission
sommes,
de ce matin.
Oui, nous sommes quand même chats.
D'accord.
Bon, voilà, c'est simplement une petite chose. C'est une histoire d'une famille, hein, donc je ne vais pas m'étendre puisqu'on n'a pas beaucoup de temps, mais là c'est une conversation entre une mère et sa fille, et elle va lui donner justement un remède. Donc 1961, bon anniversaire ma petite chérie, tu as 7 ans, tu te rends compte, 7 ans, que ma fille est grande. Réjeanne sourit à sa mère, 7 ans, non, elle ne se rend pas compte, elle ne sait pas ce que ça fait d'avoir 7 ans. Alors pour commencer, tu vas avoir de l'argent de poche. Oh, moi aussi ? Elle croyait que c'était réservé aux garçons. Elle n'en revient pas. Oui, toi aussi, mais c'est moi qui te le donnerai. C'est une affaire de femme, tu comprends ? Réjeanne se tait, pensive. Jeanne se méprend. Si ça t'ennuie d'avoir de l'argent comme ça pour rien, tu peux travailler pour le gagner, tu veux ? Tu pourrais me repasser les mouchoirs et les serviettes. Par exemple, qu'est-ce que tu en dis ? Réjeanne ouvre de grands yeux, c'est donc ainsi que ça se passe lorsqu'on est une fille. Bon, très bien. Oui maman, je vais repasser les mouchoirs et les serviettes. Marché conclu. Elle remercie, va pour partir. Sa mère la rattrape. Il y a autre chose ma fille, quelque chose que je dois te montrer. Tu as l'âge à présent. Dans sa chambre, elle sort de l'un des tiroirs de la commode. Une grosse boîte en carton, encollée de toile de Jouy. Une boîte que Réjeanne a déjà vue de loin et qu'elle imagine contenir des chaussures ou des chapeaux. Elle attend, sa mère pose avec précaution la boîte sur le lit, va fermer la porte à clé, revient, tend la main à la petite qui ne bouge pas, Réjeanne. L'enfant vient enfin près de sa mère, la regarde, attend. C'est notre petit nécessaire de santé à toi et à moi. C'est un truc réservé aux filles. Jeanne savoure l'instant, rayonne, bénit sa mère, sa grand-mère et les autres au-dessus, au loin. Jeanne est heureuse d'offrir de la gaieté à sa fille qui semble en avoir tant besoin. Dans ma famille, toutes les femmes en ont une à elles à partir du moment où elles quittent leur mère pour se marier. Avant ça, dès l'âge de 7 ans, elles ont accès à la boîte de leur mère. Alors voilà, c'est ma boîte. Et à partir d'aujourd'hui, puisque tu as 7 ans, elle est aussi à toi. Sous les yeux de la gamine éberluée, elle étale sur le couvre-lit fausses dents, faux nez et moustaches touffues, perruques, immenses culottes et gigantesques soutiens-gorge, photographies cornées et carnets truffés des aventures les plus drôles arrivées à des vraies personnes. Tu comprends, ma poulette, des gens qu'on connaît. On sait que ça leur est arrivé, vraiment, c'est du vécu. Comme la fois où la tante Germaine au marché a soudain senti que son élastique de culotte lâchait. Eh bien, sais-tu ce qu'elle a fait? Elle a laissé la culotte glisser vers le bas, et quand elle l'a eue sur les pieds, elle l'a enjambée, l'air de rien, tout en payant ses poireaux. Et puis elle est partie très digne, et personne n'a rien vu. Réjeanne éclate de rire, et sa mère l'imite. L'une entraîne l'autre, et pour ne pas me lire, elles essayent lorgnon et fausses dents, tout en se faisant des grimaces et la grosse voix. La poignée tourne, mais la porte ne s'ouvre pas. Les courageurs et les hurlements de Serge et Vincent. « Mais maman, qu'est-ce que vous faites enfin ?» Réjeanne explose de rire, elle n'en peut plus. Elle est vengée, elle est réhabilitée, elle est une fille et que c'est bon d'être une fille. Elle saute au cou de sa mère et l'embrasse sur les joues, sur le nez, dans le cou. Jeanne serre sa fille fort, fort, que c'est bon d'avoir une fille. Enfin, elle n'est plus seule, enfin. Depuis le temps qu'elle tient bon, elle reste longtemps comme ça, toutes les deux, enfermées dans la chambre et que c'est bon.
Merci beaucoup Anne Sylvestre, aux Serpentines d'Alice Yonnet-Drous, et la suite est en cours d'écriture. Oui. Dans Coquelicot et autres mots que j'aime, à l'article livre, vous vous confiez qu'avant même de savoir lire, vous avez eu un livre et que vous vous en souvenez par cœur, c'était les Contes de Perrault, et vous faisiez sécher entre ces pages des pensées et des violettes.
Oui, c'est vrai, et c'était un livre qui était entoilé de bleu. Et je le lisais, enfin je le lisais, je faisais semblant de le lire sur ma balançoire.
Et puis ensuite, il y a eu un livre qui est devenu comme un morceau de votre cœur, bien plus qu'un livre, c'est Alcool d'Apollinaire.
Ah oui, ah oui, oui, oui. J'en ai retenu des bouts, des tas de bouts, par cœur.
Terminons par vos deux citations, Becky et Anne Sylvestre. Alors la première, vous l'avez dite tout à l'heure, c'est « On cherchera le pont quand on arrivera à la rivière ».
Oui.
Vous y arrivez ?
J'essaye, oui. Oui, oui, ça facilite les choses.
C'est un exercice, il faut s'entraîner. Et puis la seconde citation vient de la dédicace qui ouvre la pièce de 1831, La coupe et les lèvres d'Alfred de Musset. C'est « Mon verre n'est pas grand, mais je bois dans mon verre ».
Oui.
Alors lui, c'est parce qu'on l'avait accusé de plagiat. Et il se défendait en disant « Non, non, c'est peut-être que j'ai des limites, mais ça, tout vient de moi oui. ». Comment vous l'entendez-vous, cette citation ?
Ben, c'est un peu une sagesse, finalement. Pour ne pas, pour aider à ne pas toujours regretter à l'autre, il a eu plus que moi, l'autre, il a plus de succès que moi. Il faut chercher aussi ce que on a soi de mieux et que l'autre peut vous envier.
C'est magnifique, je propose qu'on termine sur cette idée, à méditer en ce dimanche matin.
Mon Dieu, oui.
Musset qui disait aussi, puisque tu sais chanter, ami, tu sais pleurer.
Ah oui, puis ça fait du bien.
De pleurer ?
Quelquefois, oui.
Quelquefois, oui, mais pas trop alors.
Pas trop,
parce
non,
que
non.
Ça épuise, vous nous avez prévenu.
Parce que ça abîme les yeux aussi.
Les yeux ? Mais il paraît que ça lave l'âme.
Oh, ben l'âme, oui, mais on la voit pas.
Ça dépend, il y en a. Peut-être que c'est mieux de pas la voir d'ailleurs, parce que...
Oui, quelquefois, il vaut mieux pas, oui.
Merci beaucoup, Anne Sylvestre, d'être venue dans cette émission.
Merci, Eva.
Cette émission était une rediffusion datée du 22 avril 2018.